écouté ce que vient de dire le grand rabbin Gedge, de vous dire deux points particuliers qui, je suis sûr, dont vous comprendrez l'importance. La première, c'est une remarque au sujet de Jean-Paul II. Il ne faut pas oublier que la date à laquelle il est né et l'endroit où il est né. Et il a eu cette particularité de connaître la vie juive en Pologne d'une manière que, hélas, aujourd'hui, très peu de gens ont pu connaître. Puisque à Radovice, puis dans les villes de ça, dans les endroits où il a vécu, donc avant la guerre, puis pendant la guerre, puis après la guerre, sous le régime soviétique, du moins au début, avant la destruction complète, ou quasiment complète, du judaïsme polonais, ces villes de la Silésie ou de cette région du sud-ouest de la Pologne avaient une population juive qui était égale à la population chrétienne. Et la familiarité mutuelle de ces deux populations, en dépit des courants antisémites ou anti-juifs qui existaient, donnait une sensibilité, une connaissance concrète qui fait que le pape Jean-Paul II a pu d'entrée de jeu, sans le chercher, comprendre, connaître par intuition la sensibilité juive et la manière dont les questions pouvaient se poser, surtout après le drame épouvantable par lequel s'est achevée la Deuxième Guerre mondiale. Ceci, à la télévision, vous avez pu le remarquer quand, par exemple, à Jérusalem, il y a eu ce moment tout à fait étonnant où il a retrouvé des gens de sa ville d'enfance. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces images. La télévision n'a pas pris les paroles qui se disaient, mais ça a duré au moins 5 ou 10 minutes, qui pouvaient suivre d'un peu plus près l'événement. C'était vraiment très touchant. Ce qui fait qu'il ne s'agit pas simplement d'une question théorique, mais d'une question humaine et profonde de connaissance mutuelle. C'est ma première remarque. Ma deuxième remarque est au sujet de Nostra Aetate. Ça a été dit déjà à maintes reprises, mais il faut remarquer que Nostra Aetate porte sur la relation de la foi chrétienne avec toutes les religions non chrétiennes. Cette accolade peut paraître bizarre, mais les pères du Concile ont fait un travail subtil, puisqu'ils ont qualifié dans chacun des paragraphes qui traitent différentes religions, d'une part les grandes religions que nous pourrions appeler païennes d'Asie ou les religions qui n'ont pas connu la révélation biblique, l'islam traité à part et la religion juive, en employant des mots différents sur sa relation. Ce qui donne, quand on lit attentivement le texte, un sort unique au judaïsme, par rapport au christianisme, la reconnaissance d'une singularité, et qui se traduit, y compris dans l'organisation des organes chargés des relations mutuelles, puisque que personne n'y voit une offense, pour qui que ce soit, l'organisme qui est chargé de l'unité des chrétiens, de la recherche de l'unité entre les chrétiens, a comme compagnon très proche la relation avec le monde juif. Alors que même l'islam postérieur est traité différemment et maintenant désormais dans un ensemble plus vaste qui prend la religion comme un des faits de la culture humaine. Alors que c'est reconnaître que la révélation est dans le judaïsme et la source même à laquelle le christianisme doit avoir reçu la révélation. J'en viens maintenant pour répondre à la question posée par le débat, ce qu'est l'avenir pour les relations entre juifs et chrétiens. Je vous disais mon émotion en écoutant le grand rabbin Gedge, parce que je vais traiter quasi même point que lui, à ma façon, mais sans que cela ait pu être prémédité d'aucune manière. Je voudrais, si j'y arrive, répondre à trois questions. La première, tout cela est bien beau, mais est-ce que ça va durer? Est-ce que ça ne peut pas changer? Autrement dit, est-ce qu'on peut se fier à la stabilité, le caractère irrévocable de la position des catholiques? Voilà la première question. La deuxième question, c'est, au fond, qu'est-ce que ça peut nous apporter aux uns et aux autres? Autrement que des bons rapports, ou des rapports cordiaux ou pacifiques, ou des profits externes. Est-ce que ça touche quelque chose d'essentiel à ce qui fait l'essentiel de nos vies, comme croyants, la foi elle-même que chacun, à laquelle chacun adhère et souscrit et reçoit? Et ma troisième question, si jamais j'y parviens encore une fois, c'est quelles conséquences pratiques pouvons-nous en tirer pour demain, après-demain? Par quoi commencer? Y a-t-il quelque chose à faire? Première question, est-ce que ça va durer? Et comment sommes-nous sûrs que ça va durer? Je réponds bien entendu uniquement du point de vue chrétien. Et la raison, elle, est très simple. C'est que il ne s'agit pas simplement d'établir des contacts amicaux après des siècles de conflits, d'injustices ou de persécutions. Mais il s'agit de bien comprendre que ce changement d'attitude est en réalité une lecture, une manière de comprendre, de vivre et d'adhérer plus purement, plus justement à la foi chrétienne. Ou encore que ce changement n'est pas de l'ordre de la conduite morale. Je veux dire, quand des gens se sont disputés en se faisant des reproches justes ou injustes, à tort ou à raison, avec des sévices commis par le plus fort contre le plus faible, mais quand des gens se sont disputés pendant des siècles et des siècles, on peut à la fin dire bah, « réconciliez-vous ». Comme par exemple deux pays européens qui sont fait la guerre, comme la France et l'Allemagne finissent par se réconcilier, et on fait la paix, et puis voilà, on oublie. Mais ce que Nostra Aetate énumère et énonce de façon très brève, concise et non encore explicitée, c'est une affirmation fondamentale de la foi chrétienne elle-même, telle que l'Église catholique la professe. Et donc la certitude que cela ne peut pas changer, c'est que l'effort qu'ont fait les pères du Concile, c'est d'essayer de comprendre ce qui, dans l'anti-judaïsme, tel qu'il a sévi pendant des siècles, qu'est-ce qui, dans l'anti-judaïsme, est une déformation de la foi, une contradiction de la foi elle-même. Et ceci apparaît clairement quand on voit à la fin du XXe siècle éclater ce fruit étrange de la civilisation occidentale que sont les totalitarismes et qu'a été le nazisme. C'est une question que nous devons nous poser, sinon pourquoi les mêmes causes ne pourraient-elles pas produire les mêmes effets à nouveau? Et c'est donc un travail de purification de la foi chrétienne elle-même en séparant ce qui était des opinions abusives, erronées, non fondées, et la foi elle-même et ses exigences propres. Sans pouvoir entrer dans le détail de ces différents points, je les énumérerai cependant. D'abord, en tâchant d'être bref, très très bref, mais en essayant d'énoncer les choses de telle sorte que d'abord les chrétiens puissent comprendre ce lien indestructible avec la foi elle-même catholique de l'attitude de l'Église en ce domaine. Tout d'abord, la responsabilité de la mort du Christ attribuée aux Juifs en général. Déjà, le Concile de Trente, le grand concile réformateur du XVIe siècle, avait explicitement dit « cela est faux, on n'a pas le droit de le dire », d'attribuer à tout un peuple ce qui est le fait de quelques-uns. Mais il y a quelque chose de plus fondamental, c'est que les évangiles eux-mêmes présentent la responsabilité de la mort du Christ comme solidairement portée par toutes les catégories qui constituent l'humanité, des juifs, des païens en leurs plus hautes autorités, la foule, des gens instruits, etc. Des gens saints par leur vie, des criminels. Et donc, c'est de dire que la foi chrétienne, qui pense que Dieu veut, par le Messie, ouvrir l'ère du salut des hommes, c'est le salut de tous les hommes. Et donc la responsabilité du péché n'est pas le propre des juifs, mais de tout homme. Et donc si on veut qu'il y ait une sainteté humaine partageable, il faut bien accepter que tout homme, un jour ou l'autre, puisse, devant ce qu'il sait de Dieu, dire « qu'ai-je fait ? Ai-je fait le bien ?» Ou plutôt, « si j'ai fait le mal, je m'en repens, j'en demande pardon, je veux changer ma vie. » Sinon, il y a un horrible mensonge à attribuer le mal à une catégorie seulement de l'humanité. C'est littéralement offenser ce que les chrétiens croient au sujet du Christ. Deuxième point, la substitution dont on avait parlé également mon prédécesseur à cette tribune. L'Église prend la place du peuple juif. Je vous citerai de mémoire, je ne suis pas sûr de le faire strictement à la lettre, une expression récente du pape Benoît XVI, qui, parlant du peuple de Dieu, ajoute, c'est-à-dire, alors je ne sais plus dans quel ordre il cite les mots, l'Église et le peuple d'Israël. Et Israël. En effet, il faut savoir que dans le Nouveau Testament, il n'y a que cette mention de la notion du peuple de Dieu, et qu'elle est toujours, elle désigne toujours le peuple d'Israël. En disant cela, le pape Benoît XVI n'a fait que ramener le langage à la rigueur du langage biblique et évangélique. Que veut dire une pareille formule? Il faudrait, vous vous doutez, plus que la longueur que le temps d'une phrase pour vous l'expliciter. Mais ça signifie en tout cas que dès le moment où l'Église prend la nouveauté de l'Esprit qui est donné à Israël et à tous ceux qui reçoivent la révélation, est confisqué au bénéfice de l'Église ou des chrétiens au détriment d'Israël, c'est tuer littéralement la mission de l'Église elle-même. Elle ne peut pas exister sans qu'Israël accomplisse sa mission. Le débat reste ouvert sur la manière de l'accomplir et la fidélité à laquelle nous sommes appelés, mais c'est précisément ce qui reste ouvert jusqu'à la fin des temps. Et enfin, le règne à venir, qui est notre espérance commune, que les chrétiens ici se rappellent la fin du « je crois en Dieu », le grand et le plus petit, et sur la résurrection des morts et les temps à venir. On peut dire que cette espérance est commune et aux juifs et aux chrétiens, mais la tentation et l'erreur, c'est de penser qu'elle puisse coïncider avec ici et maintenant une réalisation temporelle et actuelle. Tous les hommes sont en marche vers ce qu'ils savent ou ne savent pas, qu'ils ignorent encore, jusqu'à ce qu'enfin leur soit donné. Mais nous savons aussi que, en ce temps-ci, tout homme est responsable de ce choix fondamental entre le bien et le mal, et qu'il doit y répondre. Et donc, il n'y a pas ici-bas de règne de Dieu effectivement accompli. Il est venant. Sinon, pourquoi les chrétiens devraient-ils prier plusieurs fois par jour que ton règne vienne ? Faire cette prière, ce n'est pas souhaiter le règne du Christ comme le règne d'une puissance de ce monde, ou le règne de Dieu comme le règne d'une puissance de ce monde, ou une victoire commerciale, ou une victoire impériale quelconque. Il s'agit d'un combat qui ne s'achève que quand Dieu le décidera et l'accomplira. Voilà ce que je voulais rappeler sur la durée de ce que nous croyons. Vous voyez, comme vous le voyez, cette attitude de Nostra Aetate est fondée sur la cohérence interne de la foi chrétienne telle qu'elle a été crue, et elle écarte des interprétations, des opinions meurtrières pour ceux que l'on écarte, ou que l'on s'agrège, ou que l'on méprise, mais suicidaires pour la foi chrétienne elle-même. Et il y aurait une histoire spirituelle de l'Occident à faire pour expliquer aussi l'histoire dans l'Occident chrétien de son changement en des messianismes temporels athées et qui ont causé l'effroyable bouleversement des deux derniers siècles, alors qu'ils étaient porteurs d'une espérance énorme et positive. Il y a donc une réflexion à faire sur cette évolution de notre civilisation. Et donc, de comprendre à la fois son origine et ses sources, et d'essayer de comprendre à quel moment elle bifurque et quelles sont les rectifications de tir, si j'ose dire, qu'il est nécessaire de faire pour comprendre où nous risquons d'aller et où nous devons nous avancer. D'un mot, si je n'abuse pas de mon temps de parole, j'aborderai rapidement mes deux autres questions. Qui gagnons-nous ? En vérité, dans le dialogue entre juifs et chrétiens, ce que nous avons à découvrir, c'est dans ce que chacun tient de l'unique révélation, de reconnaître ce que peut-être l'autre a plus mis en lumière que nous, ou que chacun a oublié ou méconnu. Autrement dit, qu'est-ce que le chrétien peut découvrir dans la foi que lui exprime le juif qui lui permet de mieux comprendre ce qu'il a méconnu ou oublié de sa propre foi, puisque la source est commune. Et oserais-je dire, puisque cela a été suggéré par nos prédécesseurs, la question peut être posée aux juifs, symétriquement. La symétrie n'est pas parfaite, elle est même parfaitement imparfaite, puisque, en réalité, ce n'est pas l'identité d'un chemin que l'on parcourt de A à B ou de B à A, mais c'est deux manières de cheminer qui ne peuvent pas se superposer et qui pourtant peuvent être considérés comme communs. Donc il y a une vision du judaïsme, de l'existence du peuple juif et dans l'histoire du salut à partir de la foi chrétienne, et il devrait y avoir une interprétation, une compréhension de cette annonce aux nations par les chrétiens vue du point de vue juif. Mais à chaque fois, la cohérence n'est pas la même. Mais c'est ce qui permet précisément le dialogue sur ce qui nous sépare irréductiblement, c'est évidemment la personne du Messie. Mais il nous reste à voir dans la dernière question, alors c'est vraiment une phrase, qu'avons-nous donc en commun, qui est le socle qui nous permet de comprendre ce qui nous sépare, et qu'avons-nous donc en commun qui est si grand et qui nous permet aujourd'hui de faire face non pas à une action commune qui serait au choix, comme si on se choisissait des partenaires, mais qui est notre commune responsabilité devant les hommes et devant Dieu. Car nous sommes responsables en commun de ce qui nous est commun, qui sont les commandements de Dieu. Dans un monde qui précisément oscille sur ce terrain. Et ce qu'il nous faut entreprendre Ce n'est pas seulement une prédication ou une entreprise de ce genre, mais d'agir selon les commandements, là où précisément l'urgence nous l'impose et notre communauté de compréhension de ces commandements nous le permet. Agir ensemble parce que c'est le Seigneur lui-même, béni soit-il, qui nous a dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » et d'agir à cet égard pour ceux qui souffrent, pour ceux qui ont faim, pour ceux qui ont soif, pour ceux qui sont persécutés. C'est quelque chose qui est de notre devoir dans notre propre ensemble. Et si nous le faisons au nom même de ce qui nous est commun, en respectant ce qui nous sépare, notre action sera un vrai témoignage désintéressé, mais qui montrera que qui est celui dont nous voulons écouter la volonté sainte. Et il me semble que si c'est peut-être ce que je vois dans ce chemin fait par l'Église comme une annonce, une première annonce et un commencement de ce que j'essaie d'esquisser, probablement les questions qui touchent à l'unité des chrétiens seront-elles plus faciles à traiter si, au moins sur ce premier point, il y a cet effort mutuel de comprendre ce qui nous est commun et de respecter ce qui nous divise.